les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Nicolas Bonucci, juriste au sein du cabinet Paul Hastings et ancien directeur juridique de l'OCDE, nous parle de la corruption internationale. 5e épisode. Pourquoi lutter contre la corruption internationale ?
Chers auditeurs, nous voici au terme de cette mini-série avec un épisode dédié à une question simple, mais à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre, c'est pourquoi doit-on lutter contre la corruption internationale ? Et pour m'aider dans cette réflexion, j'ai demandé à des auditeurs de me poser quelques questions.
Pourquoi chercher à régler des affaires de corruption dans des pays lointains plutôt que chez nous ?
Je comprends la question, même si j'en partage pas les prémices. En effet, pourquoi opposer les deux ? Manque de moyens ? Manque de volonté ? Préservation illusoire d'une forme d'intérêt national ? Une sorte de la Corrèze avant le Zambèze ? De fait, quand on regarde le phénomène de corruption, on est frappé par le fait que chacun d'entre nous est constamment sur le fil du rasoir. Accepter un piston pour son fils, c'est de la corruption ou pas ? Quelle est la frontière entre le réseautage et la corruption ? Aller voir le maire d'une ville que l'on connaît bien pour faire avancer son dossier, fût-il légitime ? Les petits compromis du quotidien ne font pas de chacun d'entre nous des corrupteurs. Mais il justifie qu'on soit conscient que les frontières sont floues. Et ce qui est vrai pour nos frontières personnelles est également vrai des frontières étatiques. Pourquoi voulez-vous que la corruption fasse comme le nuage de Tchernobyl et qu'il s'arrête comme par enchantement à la frontière franco-allemande ? En fait, une entreprise qui gagne des marchés à l'étranger par le biais de la corruption cédera tôt ou tard à la tentation chez soi. En effet, le plus on étudie le fait de corruption, et le plus on se rend compte que les catégories que j'avais évoquées dans le premier épisode sont quelque peu artificielles. La corruption est un phénomène progressif et évolutif. Donc, combattre la corruption à l'étranger, c'est aussi un moyen de prévenir la corruption dans son propre pays. Au-delà de ça, il convient de considérer les points suivants. Des pays en développement mieux et plus développés, car ils ont réussi à juguler la corruption, constituent des marchés plus attractifs pour les entreprises françaises et des dépenses publiques plus justes pour le développement. L'un des effets pervers de la corruption sur l'entreprise, et c'est un phénomène qui est souvent sous-estimé, est que cela freine la capacité d'innovation et de recherche de l'entreprise. Car l'entreprise n'a plus besoin d'innover ou de rechercher. Ce n'est pas cela qui constitue le moteur d'accès au marché, mais la corruption.
Est-ce que la corruption n'est pas une façon de graisser la machine économique ?
Cet argument a été très en vogue au moment de l'adoption de la Convention, jusqu'à il y a une dizaine d'années, je dirais. Mais maintenant que l'on connaît mieux les multiples impacts de la corruption, il est de moins en moins audible et je dirais de moins en moins crédible. Sur quoi repose cet argument ? Il repose sur un postulat qui est que la corruption est une réponse du marché à un dysfonctionnement du marché. Si, par exemple, il faut 6 mois pour obtenir un permis de construire, là où en fait 2 semaines suffiraient, il est légitime et économiquement sensé d'accélérer la procédure par le biais d'un pot de vin. Plusieurs points peuvent être soulevés en retour à cette affirmation. En premier lieu, cette théorie économique semble plus applicable pour les paiements dits de facilitation. Vous vous souvenez, ces petits paiements qui sont faits pour faire avancer un dossier, que pour ce qu'on appelle la grande corruption. En deuxième lieu, cette approche ne fait que renforcer la corruption systémique, car elle ne s'attaque pas aux causes du dysfonctionnement. Un cas illustre la nécessité de toujours bien comprendre les causes d'un dysfonctionnement pour y apporter des bonnes réponses. C'est un cas d'école très connu dans le milieu de ceux qui luttent contre la corruption. Il y a une dizaine d'années, un rapport parlementaire adopté par le Parlement du Ghana avait pointé la corruption systémique de la police routière. La réponse qui a été donnée, sans vraiment chercher à comprendre le pourquoi de cette corruption, a été d'augmenter les salaires des policiers. La conséquence, quasi immédiate, telle qu'elle a été parfaitement illustrée par deux économistes qui ont étudié cette situation, a été l'augmentation du montant des pots de vin demandés. Car les policiers, étant mieux payés, étaient plus importants, et donc, alors qu'avant on pouvait les corrompre avec $1, il fallait maintenant les corrompre avec $5. Pour en revenir à la théorie de la corruption comme graissage du moteur économique, elle peut être attractive, comme je l'ai dit, pour ce qui est de la corruption du quotidien. En 2011, le Chief Economic Advisor de l'Inde, M. Kaushik Basu, avait émis une proposition intéressante. Comme vous savez, l'Inde est un pays qui connaît beaucoup de petites corruptions. Le fait de corruption, pour cette corruption du quotidien, ce que M. Basu appelait « the harassment bribes », devait rester illégal. Mais seul le corrompu devait être puni. L'argument de M. Basu était qu'ainsi, on découplait les intérêts du corrupteur et celui du corrompu, et que dès lors, cela faciliterait les dénonciations. Quoi qu'on pense de cette idée, qui n'a jamais été mise en œuvre, il est intéressant de noter qu'elle vise à diminuer, voire éliminer la petite corruption, et qu'en aucune façon, elle est destinée à valider la proposition de départ qui est de dire que la corruption facilite les échanges économiques.
En quoi je serais une victime de la corruption internationale ?
Il s'agit là de la question la plus difficile qui soit et qui est sous-jacente à beaucoup de réflexions actuelles, notamment celles qui souhaitent aboutir à l'établissement d'une cour internationale anticorruption. Il est un fait que le système actuel n'est pas satisfaisant, car le système actuel ne répond pas à deux questions fondamentales. Qui sont les réelles victimes de la corruption internationale et comment peut-on faire pour les compenser? Prenons l'exemple du règlement Airbus. En janvier de cette année, l'entreprise Airbus a consenti à verser près de 3,6 milliards d'euros cumulés pour clore le dossier vis-à-vis de trois autorités de poursuite, les autorités britanniques, américaines et françaises. Le parquet national financier a ainsi permis au Trésor public français de récolter 2,1 milliards d'euros. Donc, cet argent va à la France. Les autorités britanniques et américaines ont fait de même vis-à-vis de leurs trésors respectifs. Mais si l'on va voir l'affaire elle-même, les faits de corruption se sont déroulés en Chine, au Brésil, en Russie, en Corée du Sud, en Indonésie, au Mexique. Pourquoi alors la France, les États-Unis, le Royaume-Uni se répartissent l'amende sans aucune autre clé de répartition? Pourquoi ne pas envisager un système dans lequel les pays victimes toucheraient au moins une partie des amendes? En même temps, revenons sur le cas de M. Abacha que j'avais évoqué dans le premier épisode. Vous vous souvenez, l'ancien président du Nigeria. Eh bien, il est un fait que les successeurs de M. Abacha au Nigeria étaient aussi corrompus que lui et que retourner l'argent au Nigeria équivalait à changer la poche du corrompu, mais rien d'autre. C'est donc une sorte de dilemme dans lequel on se retrouve confronté. La Suisse a affronté ce dilemme plus d'une fois et a entamé une réflexion qui aboutit en 2016 à une loi qui est très novatrice, qui est la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger. Cette loi comprend deux articles particulièrement intéressants. L'article 17 pose le principe, et je vais le citer, que la restitution des valeurs patrimoniales poursuit les buts suivants. A. Améliorer les conditions de vie de la population du pays d'origine. Ou B. renforcer l'état de droit dans l'état d'origine et contribuer ainsi à lutter contre l'impunité. L'article 18 définit une procédure. La loi indique que la restitution des valeurs patrimoniales confisquées s'effectue par le financement de programmes d'intérêt public et que le Conseil fédéral est invité à conclure des accords afin de régler les modalités de la restitution avec le pays d'origine. De tels accords peuvent porter, précise la loi, notamment sur les éléments suivants. A. Le type de programme d'intérêt public auquel sont destinées les valeurs patrimoniales restituées. B. L'utilisation des valeurs patrimoniales restituées. C. Les partenaires impliqués dans la restitution. Et D. Le contrôle et le suivi de l'utilisation des valeurs patrimoniales restituées. La loi précise en outre que, à défaut d'accord avec l'État d'origine, le Conseil fédéral fixe les modalités de la restitution et, précise la loi, il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l'entremise d'organismes internationaux, comme la Banque mondiale ou l'OCDE, ou nationaux, et prévoir une supervision par le ministère des Affaires étrangères suisse. La loi enfin précise qu'il convient d'associer autant que possible les organisations non gouvernementales au processus de restitution. La démarche suisse est la plus aboutie, mais elle n'est pas la seule. En France, un projet est toujours sur la table, préparé par le sénateur Jean-Pierre Sueur, sur ces mêmes questions. Aux États-Unis, alors même que nous enregistrons cette émission, un projet qui s'appelle le Crooks Act vise aussi ces mêmes questions. On pourrait qualifier de telles démarches de paternalistes, voire un peu néocolonialistes. Mais la réalité est que les vraies victimes de la corruption, c'est-à-dire les citoyens du pays d'origine, doivent être protégés, y compris parfois, de leurs propres autorités. Nous arrivons donc au terme de cette mini-série dédiée à la corruption internationale. J'espère avoir démontré pourquoi il est indispensable de s'attaquer à la corruption internationale, qui est un problème qui nous affecte tous, même si nous n'en sommes pas tous conscients. J'ai l'habitude de présenter la lutte contre la corruption comme un marathon dans lequel les coureurs n'arrivent pas à se situer. Je ne sais pas à quel kilomètre nous sommes, mais nous n'avons pas d'autre choix que de courir ensemble afin d'aboutir à un monde plus juste et moins corrompu. Merci pour votre attention.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Camille Blumberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Mathieu Gasny. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.